Oh, bonsoir, monsieur Wolf. Prendrez-vous la même chose que d'habitude?
S'il te plaît, ma petite.
Et voici pour vous, monsieur Wolf.
Merci.
Bonsoir. Encore une belle soirée pour miser.
Oh, bonsoir, monsieur Illicus. Alors, avez-vous encore gagné ce soir?
Et pas qu'un peu. 300 000 $ en même pas une heure. J'aime vraiment beaucoup cet endroit.
C'est vraiment incroyable, monsieur Illicus. Cela fait 3 jours d'affilée. Vous avez vraiment beaucoup de chance.
Oh, la chance ne fait pas tout. Il faut aussi savoir profiter des opportunités. Allez, serre-moi un lagon noir et garde la monnaie.
Mais monsieur Illicus, c'est un billet de 100 $?
Ça me fait plaisir.
Et voici pour vous, monsieur Illicus.
Allez, je bois à ta santé et au meilleur filon de la ville.
Oh, je vois qu'il est 23 h. Je dois vous laisser, monsieur Illicus. Je vais être de service au casino.
Tu alternes entre barmaid et croupière?
Oui, monsieur Illicus. C'est tout récent. Je viens d'avoir une promotion.
Eh bien, félicitations. Et peut-être nous reverrons-nous à la table de jeu.
Avec plaisir, monsieur Illicus. J'y vais de ce pas. Ma collègue va prendre le relais pour vos prochaines consommations.
Hé, hey, l'ami, accepteriez-vous de discuter avec un camarade de jeu, même s'il est moins chanceux que vous?
Mais bien naturellement. Gagnant ou perdant, c'est le goût du risque qui nous anime, nous les joueurs.
Le risque n'a pas l'air d'être un problème pour vous, je me trompe?
Vous avez l'œil, l'ami. Plus attentif que celui des agents de sécurité de cet établissement, en tout cas.
Et feriez-vous profiter un camarade de vos conseils éclairés?
Je le peux.
Bien. Combien?
40% de vos gains, tant que nous sommes à la même table.
15%.
Allons, mon bon ami. Allez-vous me laisser rentrer chez moi après avoir fini ce cocktail? Je pensais que nous étions entre personnes raisonnables.
25%?
Ah, venez avec moi. Nous allons passer une soirée inoubliable. Alors voici comment ça va se passer. Nous allons jouer à la table de la petite barmaid de tout à l'heure. Elle débute et elle m'a à la bonne, elle sera moins méfiante. Un homme avec un veston gris, un nœud papillon rouge et un tatouage de dragon à l'avant-bras va nous rejoindre.
Vous êtes accompagné à ce que je vois.
Oh, allons. Je ne peux bien évidemment pas contrôler les allées et venues des autres clients. Disons qu'il me porte chance, d'accord?
Très bien. Et ensuite?
Cet homme a ses habitudes. Main gauche sur son verre, ce sont les dizaines. Main droite sur le rebord de la table, les unités. Commencez par jouer rouge et alternez. N'oubliez pas, 25% de vos gains tant que je suis à votre table.
Oh, messieurs Wolf et Illicus, bienvenue. À ma table, nous jouerons à la roulette. Faites vos jeux.
Notre porte-bonheur est arrivé. Vous savez ce qu'il vous reste à faire.
J'ai bien compris. Je mise 5 000 sur le rouge, sur le 14.
Rien ne va plus. Le 14 rouge. Oh, c'est bien joué, monsieur Wolf.
Il faut croire que je vous ai légué ma chance, mon cher.
50 000 sur le noir. Le 21.
Rien ne va plus. Le 21 noir. Bon sang, monsieur Wolf, c'est encore gagné.
C'est incroyable. Je vais miser 500 000 sur le prochain.
Ne soyez pas trop gourmand. Excusez-moi, messieurs, dames, je dois quitter la table. J'ai un appel important.
Veuillez faire vos mises, s'il vous plaît.
Bon débarras. Il a quitté la table. Dis adieu à ta commission. 1,5 million.
Oh, mais monsieur Wolf, c'est une très grosse mise. Veuillez patienter un instant, s'il vous plaît. Monsieur, j'ai une mise à 1,5 million à la roulette en table 3. Oui. C'est monsieur Wolf. Entendu, monsieur. Votre mise est acceptée, monsieur Wolf. Sur quoi misez-vous?
Sur le rouge. Sur le 2.
Rien ne va plus. Le 27 noir.
Impossible! C'est impossible! Ce n'est pas comme ça que ça devait se passer!
Mais Monsieur Wolf, c'est un jeu de hasard.
Mais non, ça devait tomber sur le rouge. Le rouge, tu m'entends?
Veuillez parler moins fort, Monsieur Wolf, s'il vous plaît.
Rends-moi immédiatement mon argent, petite traînée.
Sécurité, sécurité par ici, s'il vous plaît.
Lâchez-moi! C'est bon, j'ai compris! Oh, misère, je suis ruiné.
Je vous avais dit de ne pas être trop gourmand, l'ami. Regardez dans quel état vous êtes. Qu'en penseraient vos camarades du club des chatons?
Je ne vois pas de quoi vous voulez parler.
C'est simple, vous avez grandement besoin d'argent, et moi, il me faut des informations. Je suis sûr que nous pourrons trouver un terrain d'entente.
Dans quoi ai-je mis les pieds?
Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Le Samouraï et la Soubrette, le podcast où deux colocs vous parlent d'animation japonaise et plus si affinité. Cette fois-ci, nous allons vous parler de la série Great Pretender, qui est disponible en deux saisons d'une douzaine d'épisodes chacune, produite par et actuellement diffusée sur Netflix. C'est au studio WIT qu'on doit la réalisation de cette série animée qui a été ajoutée au catalogue en 2020. Le jeune Makoto Edamura est un petit voleur japonais. En essayant de piquer le portefeuille d'un touriste étranger prénommé Laurent, il se retrouve embarqué par une équipe d'escrocs internationale dans des combines aussi élaborées et risquées que rémunératrices et exaltantes. Je vais laisser la parole à mon camarade Xavier qui va ouvrir les hostilités en vous parlant des aspects visuels de la série.
Eh bien merci Jean de me laisser la parole, c'est pas trop tôt.
Motherfucker.
Oui, oui, j'aime beaucoup tes efforts et ton accent magnifique. Je vois que cette série t'a grandement bénéficié. Bon, avant qu'on se foute sur la gueule, partons et parlons en bien de Great Pretender et de son aspect technique et de l'indéniablement grand point fort de Great Pretender qui est son image et son animation. En termes d'image, on a des décors colorés et stylisés qui sont magnifiques. La série se balade dans différents lieux du monde et chaque endroit a bénéficié d'un soin impressionnant et on en reparlera d'ailleurs aussi au moment de l'adaptation. Je vais un peu parler de différents lieux, des différents lieux en question, notamment Los Angeles où on appuie fort sur les couleurs pastel avec cette impression de chaleur écrasante et de façade luxueuse qui s'effrite, très hollywoodienne. À Singapour, beaucoup de néons et de surfaces chromées et réfléchissantes comme pour correspondre à l'univers particulier dans lequel nos escrocs se sont illustrés. Et en France, et surtout à Londres, des décors volontairement plus ternes et à la technique qui se rapproche bien plus de l'art pictural, ce qui une fois de plus correspond bien aux activités des héros à ce moment de l'histoire. Il y a encore d'autres pays visités, mais pour le coup, moins marqués en termes de décors.
Alors effectivement, je suis d'accord pour dire que visuellement, il est plutôt joli et plutôt propre. Juste un petit bémol me concernant, c'est au niveau des aplats de couleurs qui sont utilisés au niveau des palettes. En fait, c'est sur les textures essentiellement des murs et des décors de manière plus générale, avec des nuances qui sont très contrastées entre elles. C'est un effet qui a été un peu exagéré, je trouve. Bon, du coup, ça lui donne une petite patte. Mais je trouve que ça tranche avec les personnages qui, eux, sont rendus de façon classique, entre guillemets, donc ils ont des aplats de couleurs ou des nuances un petit peu plus élaborées, et pas ces espèces de contrastes entre un mur de couleurs unies et puis des grosses taches d'une deuxième nuance. Donc bon, voilà, ça n'enlève en rien les qualités visuelles de l'animé, mais moi j'ai trouvé que cette petite touche, cette petite patte était peut-être un petit peu exagéré, un petit peu trop prononcé. Au niveau de l'animation, il n'y a rien à dire, on est dans les normes, c'est plutôt joli. Et au niveau des incrustations 3D, c'est quelque chose qu'on a en droit d'attendre maintenant en 2020 à la sortie, et puis en 2021 de nos jours quand on le regarde. C'est correct dans l'ensemble, mais il y en a quand même quelques-unes que j'ai trouvées un peu nazes, et ça c'est dommage.
Outre cette partie sur les décors, je voulais aussi signaler que globalement il y a de très jolies mises en scène, notamment dans les parties du ciel de Singapour. Je ne ferai pas m'étendre pour pas trop spoiler. Et aussi dire qu'il y a un chara-design qui est vraiment sympa, qui m'a dans un premier temps fait penser à Cowboy Bebop. et comme beaucoup d'autres aspects de l'anime, mais c'est du côté de la Gainax qu'il faut faire le rapprochement, vu que c'est Yoshiyuki Sadamoto qui s'en est occupé, lui qui faisait déjà le chara-design sur Evangelion, Fuliculi, Nadia et le secret de l'eau bleue, et plus récemment les enfants loups. Pour ceux qui ne sauraient pas ce qu'est le chara-design, c'est la manière de dessiner les personnages et souvent de leur donner un style particulier et très reconnaissable.
Maintenant qu'on a parlé des aspects visuels, parlons plutôt des aspects audio. Je vais éclipser, entre guillemets, la partie sound design, donc tout ce qui est la recherche et la création des sons. C'est très propre au niveau des sons dans l'animé. Il a un style plutôt réaliste, donc le son est aussi réaliste. Rien à dire sur c'est très propre, ça se fait oublier, donc ça veut dire que c'est correct et qu'il n'y a rien qui nous fait tiquer. Concernant les musiques, donc la bande originale, l'ensemble est très jazzy, entre guillemets. Elle s'est collée au contexte tout en se faisant assez discrète, donc c'est pas mal. Par contre, il n'y a pas de piste qui m'aurait particulièrement marqué dans cette BO. Elle se fait un petit peu oubliée, au final, elle est assez oubliable. Les pistes, pour le coup, qui sont utilisées à des instants très courts dans l'animé pour illustrer des scènes que je qualifierais de mafieux boss de la street, parce que je ne sais pas trop comment le dire autrement, ont été bien choisies. Et en fait, ce sont des pistes originales qui ont été du coup enregistrées pour l'animé. Et qui sont très difficiles à trouver, puisque manifestement, pour des raisons de droit, on ne peut les écouter qu'en regardant des extraits de l'animé, ou des vidéos amateurs où ils ont essayé de masquer les voix pour en retirer uniquement la musique, mais on l'entend, ça rend vraiment pas très très bien. C'est un petit peu dommage, parce que ça rendait plutôt bien, elles sont sympas. Xavier, est-ce que tu avais des choses à nous dire au niveau de la musique, toi qui es un fin connaisseur au niveau des instruments?
Oui, donc ce que Jean appelle une musique de mafia boss de la street, c'est ce qui s'appelle en termes techniques du bon gros gangsta hip-hop de bâtard. Voilà. Sinon, la BO, elle est très orientée jazz, comme tu le disais, mais elle alterne entre des parties big band, plutôt, donc pour des moments d'action. Donc big band, c'est tout ce qu'on va attendre avec beaucoup de cuivre et beaucoup de percussions, et des pistes plus lounge avec une dominante piano, surtout dans les parties d'interaction entre les différents personnages. On voit aussi, on entend quelques incursions funk et électro également, mais de manière plus discrète. Vraiment, le jazz est dominant. Je veux parler aussi un peu de l'opening et de l'ending, et je pense qu'avec Jean, on a des avis diamétralement opposés.
Ça alors, quelle surprise!
Moi, j'apprécie beaucoup le style graphique et musical du générique d'ouverture. Pour le côté graphique, ça me fait pas mal penser à ce que proposaient des dessins animés des années 60, comme La Panthère Rose notamment. Et pour le côté musical, ouais, bonjour, Cowboy Bebop à fond, j'ai eu l'impression d'entendre Tank, mais en moins bien, et c'est un peu ce qui revient globalement sur la partie musicale, c'est un petit peu trop sage tout ça. L'ending par contre m'a laissé complètement froid, mais je crois que Jean, non, c'est vraiment pas ce qu'il a retenu.
Alors effectivement, on a des avis qui diffèrent à ce niveau-là, comme bien souvent, mais justement, je dirais pas que c'est juste diamétralement opposé, mais plutôt qu'on se complète. Moi, l'opening me laisse assez indifférent. Il est sympa, il fait le taf, mais des supers openings, il y en a beaucoup, 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 donc celui-là m'indiffère un petit peu. Par contre, l'ending m'achève, d'un petit peu de la même façon que l'opening de Dragon Maid me laisse dans un état second. L'ending, c'est pareil, en fait, je saurais pas l'expliquer, c'est un chat en particulier, c'est le chat noir qu'on voit sur la droite, quand ils sont trois à chanter devant un micro, parce que ça fait des espèces de chant contre chant, il y a des plans sur différents chats, et donc quand ils sont trois devant le micro, le chat noir sur la droite avec son petit collier rouge là, sur le deuxième plan où ces trois chats apparaissent, il se tortille tout en chantant, donc il a le cou allongé et il tortille des fesses, je sais pas, moi ça m'achève.
Voici votre Krail, monsieur, avec les compliments du samouraï et de la soubrette.
Merci l'ami, tu le mettras sur ma note. Pour en venir maintenant à la partie histoire et narration, en termes de narration, l'anime se découpe entre plusieurs arnaques, qui sont des arcs narratifs, littéralement, avec à chaque fois un lieu et des personnages victimes différents. En termes d'intrigue, c'est typique, si je dois faire la comparaison avec un film d'un Ocean's Eleven, où le spectateur a un niveau de connaissance des détails de l'arnaque, du coup, qui va se situer au-dessus de là où les victimes, il en sait plus, puisqu'il sait qu'il y a un coup qui est monté, mais il en sait beaucoup moins que les bandits, qui eux ont tous les détails de leur plan jusque dans les moindres petits rouages. Et du coup, on va retrouver le même genre de procédé narratif, scénaristique, à base de petites révélations, du petit twist qui fait que l'arnaque fonctionne alors qu'on aurait pensé que ça pourrait capoter.
Oui, donc toute la structure de l'anime repose sur les plans de ces arnaques, et il faut avouer que pour une série qui a un ton plutôt réaliste, aussi bien dans sa représentation des endroits qu'il présente, ou dans les relations qu'il y a entre les différents personnages, les plans sont insensés de risque, parce qu'ils sont extrêmement coûteux et assez incompréhensibles, parce que la plupart laissent un des membres les plus importants de l'équipe sans explication quant au plan. C'est-à-dire que même nous, en tant que téléspectateurs, on se dit bah, on en connaît plus qu'un des parties prenantes de l'arnaque, donc c'est assez étrange. Mais bon, heureusement, l'enrobage est globalement excellent, donc on reste dedans. C'est une série très occidentale dans sa manière de traiter ces différentes thématiques, dans sa construction. On a une représentation très diverse des personnages, comme je crois que c'est la troisième fois que j'évoque Cowboy Bebop, mais c'est pas innocent. Et même en faisant péter du pop rock un poil larmoyant dans les moments clés, avec sa petite justification de l'équipe, ils sont gentils parce qu'ils rétablissent la justice, ce qui permet d'éviter de se prendre la tête avec les questions de moralité. C'est classique, mais bon, hein, ça passe. Ça passe. Par contre, en termes de profondeur, on repassera. Il faut savoir qu'actuellement, la série se découpe en deux saisons. Narrativement, on laisse de la place pour une éventuelle saison 3, mais perso, si ça se finit là, c'est très satisfaisant. Jean, je crois que tu avais des griefs par rapport à cette fin. Est-ce que tu peux en parler rapidement et sans spoiler ?
Alors oui, un point qui m'a vraiment, vraiment, vraiment gêné en fin de l'anime, en fin de série, fin de saison 2, je vais faire en sorte de ne rien spoiler. Il s'agit du traitement qui a été fait d'un des personnages en toute fin de saison 2, qui m'a vraiment, vraiment, vraiment posé problème, parce que j'ai trouvé que ça niquait énormément d'enjeux qui avaient eu leur conclusion. J'ai trouvé ça vraiment, vraiment naze, assez maladroit, sans vraiment de justification que je puisse y trouver. Quand vous aurez vu la série, vous verrez de quoi je parle, et je pense que ça ne vous apportera pas grand-chose, que ce soit en termes d'interprétation ou d'enjeux narratifs. Vous nous direz.
Oh, il a dit un gros mot.
Et puisque du coup je parle du traitement d'un personnage en fin de saison 2, embrayons tout de suite sur cette partie sur les personnages. Le personnage principal, donc le Edamura-kun, que ses camarades appellent Edamame, car ils ne savent pas parler japonais, est plutôt sympa, il se fait balader. Il entretient une sorte de rivalité avec Laurent, qui est le centre gravitationnel de cette équipe d'escrocs. C'est dommage que qu'il ait une espèce de revirement dans le dernier coup, que ce soit pas poussé un petit peu plus loin. J'avais trouvé cette espèce de changement de comportement un peu couillu et inattendu, et j'aurais aimé que ce soit poussé un petit peu plus loin. Je vous laisserai découvrir de quoi il s'agit plus en détail. On utilise notamment le personnage de Abby, qui n'apprécie pas spécialement notre cher Edamame, au début de la série, pour déblatérer un petit peu sur son aspect imprévisible, comme quoi il va pouvoir créer des grosses conneries, etc. Donc ça appuie un petit peu, et puis au final, bah non, ça a fait un peu pétard mouillé. Le personnage de Laurent est développé un petit peu trop tardivement, j'ai trouvé, c'est un petit peu dommage. Parce qu'en dehors de ça, c'est le personnage un petit peu cliché du gars qui a toujours prévu, qui a toujours une corde à son arc, qu'on sent jamais vraiment en danger. Et ça rejoint un petit peu ce que vous disait Xavier sur la consistance des plans. Ce sont des plans qui sont mais infiniment risqués. Et malgré tout, bah ouais, moi j'ai jamais senti ce personnage vraiment en danger. Donc je trouve que c'est un petit peu difficile de s'y attacher, même s'il est cool hein, dans sa façon d'être et dans la façon dont il est représenté. Je voulais vous parler d'un autre personnage. C'est extrêmement triste. J'ai pris des notes de visionnage juste après avoir fini la série et je ne me suis pas rappelé du prénom du personnage. Et donc je n'ai pas fait la recherche pour aller voir comment elle s'appelle. Parce que je pense que c'est assez emblématique du problème. J'ai donc écrit la nana alcoolique, c'est un personnage féminin donc qui aime bien boire du vin. Xavier également ne se souvient pas de son prénom, c'est pour vous montrer que je suis pas juste amnésique, il y a un problème avec ce personnage.
Je l'ai retrouvé.
Elle est plutôt attachante, vraiment. Elle est bien développée durant l'arc autour de l'intrigue dont tu parlais, là, l'intrigue au niveau des arts dans ce paysage londonien. J'ai vraiment bien aimé ce développement-là. Elle a ce développement qui manque à Laurent. Et malgré tout, bah vraiment, là où Laurent, lui, c'est le centre gravitationnel durant l'animé, et bah elle, il lui manque cet aspect-là. Et du coup, malgré son petit développement, son petit arc-là, bah, je me souviens même pas de son prénom, quoi. En dehors de ça, classique, Abby, personnage qui est très cool, qui est peut-être un petit peu exagéré sur certains traits de caractère, mais je l'aime bien. Je sais que toi, Xavier, tu as trouvé qu'il manquait un petit peu de suite au développement de ces démons. Il y a le personnage de Dorothy qui est assez sympa, qui a pas mal d'énergie. Un côté un peu cynique par moment, malgré tout. Mais malgré ça, elle arrive à être un personnage assez romantique et assez attachant. Je l'aime beaucoup, mais je trouve qu'on la voit pas assez. Et enfin, un personnage qui est un antagoniste, entre guillemets, qui est le personnage de la présidente, dont j'ai également oublié le nom, parce que pour le coup, c'est un peu une victime d'un cas, donc c'est pas un personnage qui est extrêmement développé. Mais pour autant, j'ai beaucoup aimé ce personnage, je saurais pas trop dire pourquoi. C'est un personnage qui est coupable de graves exactions, mais malgré tout, via la classe qu'elle dégage, je m'y suis attaché. Voilà.
Écoute, j'ai cherché sur Google pendant que t'enregistrais, parce que, pareil, j'ai pas le souvenir de tous ces noms de personnages. Donc, la fameuse dame alcoolique qui aime beaucoup le vin rouge, c'est Cynthia, donc la séductrice. Et du coup, la dame à Tokyo dont tu voulais parler, c'est Akemi Suzaku, PDG de l'entreprise, dirons Suzaku. Après, tout cela est assez symptomatique du problème que j'ai avec les personnages. La série, elle est très bien emballée, elle est très bien rythmée, du coup, on n'a aucun mal à suivre. Mais voilà, il n'y a pas assez d'emphase sur les personnages et on en vient à même oublier le prénom de certains qui sont vraiment principaux. Pour le coup, Cynthia, c'est un personnage qu'on voit vraiment beaucoup. Les coups de l'équipe sont l'occasion à chaque fois pour un des membres de la fameuse équipe d'escrocs de se confronter à son passé. Le manque d'évolution des persos après coup m'interpelle quand même vachement parce que à chaque fois les persos sont exactement les mêmes avant et après d'être confrontés à leur trauma. En gros, ils sont en paix mais ils ont absolument pas changé. Et finalement, le seul personnage qui change et qui évolue au cours de la série, c'est le personnage des Damura, et je trouve que c'est un petit peu dommage. C'est un peu des facilités, et la série, on va dire, elle se contente d'avoir ces archétypes de personnages sans jamais les faire évoluer. Parlons désormais de la VF et de son adaptation. Le casting VF est très bon, avec des habitués de l'animation et des séries télé, comme Benjamin Pascal dans le rôle de Laurent, Zina Kakulia dans le rôle d'Abby, ou même le pilier Gilbert Lévy, qui est un vétéran aux centaines de rôles qu'on connaît tous, comme notamment la voix de Mo dans Les Simpsons, ou beaucoup de voix secondaires dans South Park également. J'ai pas plus accroché que ça à la voix de Martin Fallu, qui fait le rôle donc de Edamura, mais comme tout le monde joue juste, et lui aussi, ça marche, c'est le principal. Great Pretender, c'est, selon moi, l'un des meilleurs tafs d'adaptation que j'ai pu voir depuis des années en VF. C'est une série internationale où, dans la diégèse, la plupart des personnages parlent en anglais. Sauf que la barrière de la langue est un élément très présent dans le scénario et il ne pouvait pas être ignoré. Dans la version originale, donc en japonais, on explique dès le premier épisode que, pour la clarté, tous les personnages qui parlent en anglais, ils seront doublés en japonais. Pour les autres langues, la langue d'origine est conservée, et c'est là où on voit que le studio 8 a pu profiter des moyens internationaux colossaux de Netflix, vu qu'ils ont pu trouver des acteurs pour toutes les langues sans aucun problème, sans avoir à utiliser des comédiens japonais qui doublent de façon un peu bizarre les langues qu'ils ne connaissent même pas. Là, la nuance, elle est parfaitement conservée dans la VF, et c'est un joli tour de force, notamment sur la partie qui se passe en France, et du coup les quiproquos entre Edamura, le japonais, les restaurateurs chinois et l'aubergiste français sont très bien retranscrits, et c'est très fluide. Cela va aussi dans la direction d'acteurs. Laurent est censé avoir un accent impeccable, et Makoto Edamura un accent pourri, et c'est exactement ce qui est joué par les acteurs. Leur accent, dans les rares fois où ils parlent anglais, ils ont conservé les voix des acteurs français, et chacun un peu bricole avec son anglais. Laurent est nickel, Edamura, c'est un peu plus compliqué. D'ailleurs, c'est assez marrant, parce que au fur et à mesure de la série, il s'améliore en anglais, et ça se retrouve aussi dans la VF. Donc non, vraiment, un très joli travail.
Et bien voilà, c'en est fini de cet épisode du podcast Le Samouraï et la Soubrette, consacré donc cette fois-ci à l'animé Great Pretender. Pour résumer, et comme vous avez pu le comprendre, Xavier et moi-même avons plutôt apprécié le visionnage de cette série, malgré des petites faiblesses de notre point de vue au niveau de la crédibilité des coups, des arnaques, et du développement de certains personnages, quasiment tous en fait, ce qui ne nous a pas empêché, il faut être honnête, de bien apprécier le visionnage de cet animé que l'on a dévoré assez vite. Voilà, on vous remercie pour votre écoute et on vous dit à une prochaine.
Je veux bien te laisser descendre, Edamame, mais seulement si tu me promets de ne pas t'enfuir.
Mon nom est Edamura et je compte pas m'enfuir.
Abby, fais-le descendre. Allez.
Ah
ouais.
T'as dit de le faire descendre ?